Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « La colonie perdue » de A.G. Riddle, Winterworld, tome 3, lu par
Louis Bernard
et Catherine Pajon. Au temps et à la magie de son pouvoir de guérison. 1. Emma. Les grondements du tonnerre qui roulent dans le ciel me réveillent. Allongée sur la couchette du bas, je guette les bruits dans l'obscurité. Notre petit matelas est certes étroit, mais il est suffisant pour James et moi. Du moins, quand il est là. Depuis 6 mois, je ne le vois pratiquement plus la nuit.
« Maman ?»
murmura Lee depuis la couchette inférieure sur le mur opposé. « Ce n'est rien, ma chérie. C'est juste un orage. » Le fracas venu du lointain gagne en intensité. Les murs se mettent à vibrer. À présent, c'est une certitude. Ce n'est pas une bourrasque qui arrive. Ils reviennent. Je me redresse et commence à enfiler ma combinaison. Elle est confectionnée dans une matière spéciale qui bloque la chaleur émise par mon corps. Nous avons mis à contribution les imprimantes 3D pour en fabriquer à grande échelle, ce qui nous a permis de sauver des dizaines de vies au cours des derniers mois écoulés. Sam descend de la couchette supérieure sur laquelle il dormait. Ali sort ses petits pieds de sous les couvertures.
« Où tu vas ?»
demande Sam. « Travailler. »
« Maman !»
dit Ali d'un ton geignard.
« Chut, tu vas réveiller ton petit frère. »
Trop tard. Dans son couffin, Carson commence à se trémousser frénétiquement jusqu'à se libérer de la couverture dans laquelle il est emmailloté. Il bâille, puis se met à crier. Le bruit qu'il produit pourrait bien signer notre perte. À tous. J'attrape Sam par les épaules. File au réfectoire et rapporte l'un des biberons préparés. Ensuite, tu le donnes à Carson pour qu'il se tienne tranquille. Il secoue la tête.
Je viens avec toi.
Non, Sam. Fais ce que je te dis.
Il est où, papa ?
Pleurniche Ali. Soyez sages, tous les deux. Et maintenant, vas-y, Sam. Et dépêche-toi ! Il sort de la chambre, la mine renfrognée. Ali relève la tête, la lippe tremblante. Je prends Carson dans son berceau et le place dans les bras de sa grande sœur. Je reviens tout de suite. De l'autre côté du hall, une porte s'entr'ouvre et la tête de ma sœur, Madison, apparaît. Tout va bien ? Les bruits en provenance de l'extérieur se font plus forts à chaque instant. « Oui, » dis-je, en mentant avec aplomb. « Essayez juste de ne pas faire de bruit. » Sam débouche en courant dans la coursive, un biberon à la main. Je m'arrête une seconde pour le serrer dans mes bras.
« Merci, »
murmurai-je à son oreille. À l'extérieur des baraquements, je fonce droit vers le poste de commandement. Au-dessus de ma tête, une vaste canopée de toiles de parachute masque le soleil, créant l'illusion de la nuit. Au cours de nos premiers mois sur Eos, l'absence d'obscurité nocturne dans la vallée avait si bien perturbé nos rythmes circadiens qu'il nous avait fallu recourir à ce stratagème pour simuler le crépuscule et la pénombre. Notre camp compte 14 longs bâtiments regroupés sous le dôme de toile. De chacun d'eux, des gens sortent en courant. Pour l'essentiel, ce sont des soldats armés, vêtus de treillis verts. Quelques-uns portent une tenue étanche comme la mienne, mais nous n'en avons que 20 au total, chacune spécifiquement adaptée au corps de son propriétaire. Si nous avions plus de matières premières, nous pourrions en produire plus sur nos imprimantes 3D. Dans les moments tels que celui-ci, quand je regrette de toutes mes forces que certains produits essentiels nous fassent défaut, je me dis que l'entreprise dans laquelle James s'est jeté à corps perdu justifie peut-être qu'il risque sa vie. Il passe un temps fou à l'extérieur de Jericho City, à ratisser la zone enténébrée d'Eos en quête de matériaux utilisables sur nos imprimantes 3D. À l'intérieur du petit bâtiment qui fait office de poste de commandement, le colonel Brightwell débite ses ordres à toute vitesse et à voix basse. Son phrasé, teinté d'accent britannique, évoque le tir d'une mitrailleuse munie d'un silencieux.
« Lancez les deux drones de surveillance !»
Assis devant son terminal, sur la longue table au centre de la pièce, le caporal Aguilar tape frénétiquement sur son clavier, puis relève la tête.